J'ai toujours aimé aussi avoir ou concevoir des moutons à cinq pattes. Ça a toujours fait partie de ma façon de travailler. Enfin, j'ai des clients qui venaient et puis qui me disaient, enfin, ou leur personnel, quand ils arrivaient le lundi matin, parce qu'ils m'appelaient MacGyver, quoi.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Pour ce septième épisode, on est à Marsanne, un petit village dans la Drôme. On se retrouve avec Hervé, qu'on appelle aussi le papé et qui produit des PAM, ce qui signifie plante aromatique. Hervé est installé avec Emma, qui s'occupe de la partie maraîchage de son exploitation. Il va nous expliquer comment il est arrivé dans l'agriculture, quel est son quotidien et comment il voit le futur de son exploitation. Je te souhaite une très bonne écoute.
Bonjour Hervé.
Mais bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? S'il te plaît.
En quelques mots.
Ouais, pas oui, rapidement, oui, quelques oui, phrases.
Oui, en faisant un cours, moins d'une heure. Hervé, dit le papé, je donne mon cursus en même temps.
Si tu veux, oui.
Allez. Donc, j'ai derrière moi 35 ans de machine agricole et d'automobile. Je suis venu donc au maraîchage et à la PAM un peu par hasard, à la suite donc d'une cessation, donc une vente de l'entreprise pour changer de vie. Et j'étais parti pour faire une formation d'accompagnateur en moyenne montagne et partir au-delà de la région et ramener sur le terrain par un souci de santé du côté de ma mère et je me suis occupé de mon père. Donc voilà, ça m'a ramené à la ferme où je suis né et sur une propriété qui fait 8 hectares, qui est un terrain qui est plutôt gravier, pas du tout conçu pour du maraîchage à l'origine, ça il faut bien le préciser.
Ouais, ouais.
Et puis de la PAM, donc voilà, pour être agriculteur, il me fallait avoir une surface équivalente à 20 hectares, on avait 8 hectares, donc on a joué avec les multiplications et les produits qu'on a fait sur place. Donc j'ai démarré en fin 2011 pour demander les dérogations et puis la conversion en bio. Et le maraîchage a commencé dans l'année qui a suivi. Les PAM, ça a suivi sur 2 ans. Les PAM sont... Je travaille avec Nateva depuis le début. C'est eux qui m'ont fait planter les volumes. Ils s'étaient engagés à me prendre toutes mes récoltes. Ça, c'était un gros avantage. La partie maraîchère, je distribue tout sur le village. Marché ici à la ferme et marché le vendredi matin au village. Une activité qui s'est greffée sur le système, qui n'est pas à négliger, c'est qu'on fait un marché de producteurs. Donc c'était une fois par mois le troisième jeudi et maintenant c'est premier et troisième jeudi. Ça permet aussi d'avoir un lien avec d'autres producteurs et puis d'avoir un moment de convivialité pour le partage donc, avec les autres personnes qui sont autour de nous.
Mais ça tombe bien parce qu'on voulait parler de ça.
Oui, exactement.
C'est venu comment l'idée de faire des concerts à la ferme? Des concerts, le marché, je pense que c'est venu du marché, mais
alors,
d'avoir cette activité un peu, comment dire, culturelle en plus.
Alors ça, c'est venu, c'est vraiment quelque chose qui a été très très calculé. C'est-à-dire que tous les mardis, les lundis soirs et les jeudis soirs, je ramassais mes légumes le lundi soir pour faire le marché entrée dans l'Ardèche quand j'ai démarré, le mardi matin, et le jeudi soir, pour le vendredi matin à Marsanne, et en même temps, je vendais un peu sur place.
Ouais.
Et les soirées. Donc, j'ai une cliente qui arrive, elle me dit, écoute Hervé, je pense que tu dois être fatigué, j'ai amené une bouteille de rosé. Donc, c'était super, une bouteille de rosé. C'est vrai que j'avais soif, mais j'avais aussi faim. Donc, je suis rentré, je prends la cueillette, je pose ça sur la table. Ça a duré une semaine ou deux comme ça, où chacun pose un petit truc. Et puis, il arrive des touristes qui étaient au camping et qui disent, ah, mais on peut manger aussi. Puis moi, je dis non. Et puis, un collègue, il dit, si, ça fait auberge espagnole. Donc, je dis, mais il est carrément con. Et je le pensais, là. C'était... je dis, putain, qu'est-ce que tu racontes? Et ces gens-là, ils avaient passé la soirée avec nous, à discuter avec des collègues, on était une dizaine, là, qui étaient venus chercher des légumes, et puis autour de la table, comme un apéritif, qu'on échangeait en même temps de ce qui s'est passé. Et ces gens, qui avaient été contents, ils étaient là la semaine après, ils sont revenus avec des pizzas.
Okay.
Parce qu'ils étaient venus les mains vides la première fois, ils sont venus avec des pizzas. Et c'est là le démarrage, donc, on va dire, de l'histoire des Jardins du Papé et des soirées. Ça a duré comme ça pendant 3 mois. Et il y avait un collègue qui venait, qui était musicien, donc il jouait dans plusieurs groupes. Et à l'automne, on avait fait des soirées où on avait joué aux cartes, on avait fait des jeux. Parce que donc il y avait 2-3 personnes qui trouvaient ça assez sympa pour passer la soirée. Très souvent, je disais le dernier éteint, parce que je partais me coucher avant eux. Et là, il me dit, oh, il faudrait bien qu'on vienne jouer ici un soir. Je dis, bah oui, ce soir-là, en guillemets, on avait été un peu supporters à Saint-Étienne, tu sais, à l'Élever.
Ouais.
Ouais.
le truc, je ne pensais pas du tout qu'il était sérieux. Dans la semaine qui a suivi, j'entends qu'il venait jouer avec une musicienne du coin. Je dis, mais il est carrément fou, quoi. Nous, il y a 20 personnes qui viennent venir jouer avec donc ce groupe-là. Pour moi, c'était un niveau qui était élevé. Donc, je prends le téléphone et puis j'appelle les collègues. Donc, Lou Caillou, que vous avez vu, il y avait un marchand de foie gras qui était dans la plaine, qui est plus ménard. J'appelle les collègues autour en leur disant, écoutez, si ça vous dit, on peut faire un marché de producteurs. Donc, où en même temps, on ferait des assiettes de dégustation de nos produits. Quelque chose qui fait partie de ma façon de penser, c'était à cette époque-là, on démarrait avec des assiettes maximum, c'était entre 2 et 2,50 € pour que tout le monde puisse en profiter.
Ouais.
Sans que personne ne se rende compte des finances de chacun, quoi. C'était, et la partie buvette, il y avait une remorque posée au milieu de la cour avec les cubis dessus et chacun mettait 1 € qu'il allait servir un verre de vin. Ça, c'était la démarche. Une fois que c'était parti, et puis j'espérais qu'il n'y aurait personne. La première fois, 50 personnes, la deuxième, 80. Voilà, ça, c'est le départ des jeudis au Jardin du Papé.
Et maintenant, vous en êtes à faire 2 par mois, plus
plutôt que 1. Maintenant, c'est
2
par mois, parce que c'est avec le Covid, où il y a des groupes qui n'ont pas pu jouer, et c'est toujours dans cette idée de partage. On est toujours sur un système d'assiettes peu coûteuses. Et pour les groupes, on travaille au chapeau. Et en fin de compte, ça a quand même pris pas mal d'extensions, malgré que des fois, on freine un petit peu dessus. Parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie. Quoi.
Ben oui, c'est ça, parce que c'est quasiment... Enfin, on ne sait pas toutes les semaines, mais c'est quand même un travail à part entière d'organiser tout ça.
Une semaine sur deux, tu as juste le temps de changer les chaussures. C'est tout de suite là.
Nous, notre podcast, c'est sur les métiers manuels. Et on voulait savoir un peu comment... Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu nous expliques que tu as repris la ferme parce que tu étais obligé de revenir pour t'occuper de ton père, etc. Mais tu n'étais pas obligé, en fait, de te lancer dans l'agriculture. Comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit du jour au lendemain, en fait, c'est moi qui vais prendre la ferme?
Mais non, puis la ferme, c'était une ferme céréalière. Mon père était un intensif.
Oui.
7 hectares, il travaillait sa journée. C'était un entrepreneur qui travaillait les terres. Il n'y avait rien qui me ramenait du côté du bio. Hein.
Oui.
Je suis revenu là parce que dans ma tête, c'était dans Monnaie du Monde pour découvrir à pied, à cheval, en voiture, faire découvrir la nature ou les régions sans prendre de risques. C'est pour ça que j'avais pris cette formation. Et quand je suis venu là, c'est que je me suis dit, bon, il va falloir arriver à vivre. Donc, ben oui, le maraîchage, J'étais un grand maraîcher, je faisais mon jardin.
Ouais, déjà.
Mais mon jardin, si mais tu veux, plus. Ça n'a rien à voir.
Entre... Oui, non, c'est clair. Et, mais tu avais déjà là, un peu le pied dedans.
Mais j'étais pas plus, je ne savais pas plus cultiver. Je me croyais un peu, oui, plus maraîcher, plus agriculteur, parce que je vendais le matériel. J'ai vendu de l'irrigation, j'ai fait des formations d'irrigation aussi. Mais en fin de compte, c'est tout faux. J'avais tout à apprendre. Quoi. Ouais. Donc, et c'est en apprenant que je me suis limé les dents, comme on dit. Et puis, je me suis pris au jeu. Donc, tu te prends un jeu qui te prend de 6h du matin à 10h du soir. Mais bon, voilà, j'ai eu la chance d'avoir la santé qui a suivi. Et puis, d'avoir des clients autour, des collègues... Où personne ne m'a découragé, mais voilà, c'est parti de là. Puis les pâmes avec la transformation, puis les herbes du papier qui représentent rien, mais qui sont l'image du papier avec les herbes. Mais ces herbes du papier, c'est de moins de 2% de la production. Quoi.
Oui, mais ça, c'est pas, enfin, je sais pas comment dire. De l'extérieur, on n'est pas censé le savoir et ça représente un peu.
Alors on le sait pas. On ne dira pas.
Et pour toi, c'était vraiment essentiel de passer en bio, alors que malgré que ton père, du coup, était en intensif.
Alors, et que j'ai travaillé, j'ai fabriqué des appareils de traitement. Je travaillais pour un gros constructeur français. Pour moi, oui, j'ai arrêté mon entreprise à un moment donné parce que j'avais Monsanto comme mon voisin, quoi.
Ouais.
Et je disais à mes clients tout le matin, mais vous êtes carrément fous, quoi. Arrêtez, on vous détruisait tout. Et inconsciemment, j'étais dedans le bio et la protection. Donc je devais avoir ça au fond d'une poche à l'intérieur de moi. Et ça a pris ça s'est développé en avançant. Et puis, je regrette rien.
Mais c'est ça, c'est quand toi, tu as eu l'occasion de planter, de démarrer et de faire ta propre production, tu t'es pas posé la question, en fait.
Ah, mais non, mais n'importe comment, que je sois resté ou pas resté, je passais l'exploitation en bio.
Ok.
C'était, voilà, pour
même
moi...
Même si c'était quelqu'un d'autre qui était venu...
Mais j'avais prévu de planter des aromatiques sur toute la propriété. C'était de la lavande hein, que je prévoyais de planter au départ. Je n'étais pas sur les pas, mais... Et comme ça, je disais, en venant deux fois par an, une fois pour biner, une fois pour récolter, voilà, je n'avais pas besoin d'être ici souvent, mais la propriété aurait été en bio.
Ouais.
C'était... Enfin, pour moi, c'était... tout à fait naturel, mais il n'y avait pas d'autres possibilités.
On voulait aussi te poser des questions par rapport au futur, du coup, de cette exploitation. C'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas faire évoluer? Et est-ce que aussi il va y avoir un travail une démarche de
transmission?
De transmission.
En fait, ça paraît assez rapide entre le moment où tu commences, tu nous as dit en 2012, et là, donc c'était il y a 10 ans, et en fait, tu es déjà un peu dans une démarche de transmission. Avec Emmanuel qui est arrivé, qui a repris la partie maraîchage. Et du coup, tu es en train de transmettre tes connaissances sur cette partie-là et les plantes aromatiques. J'imagine, j'espère que tu vas encore t'en occuper pendant un certain temps, mais comment tu vois les choses par rapport à ça
Comment je vois? Mais j'ai 65 ans. Hein, c'est, et quand je regarde l'horizon, enfin, de la façon dont j'y avance dessus, j'en ai encore pour 30 ans, parce que j'ai toujours 100 000 projets en tête. Il suffit de pouvoir le maintenir. La partie aromatique, les pâmes, ben, je croise les doigts que mes enfants aient à un moment donné du temps pour s'en occuper. S'ils n'ont pas du temps, ça sera différemment. La partie maraîchère, on dirait qu'Emma est arrivée... Mais il n'y a pas de hasard, hein, c'est ce que j'emploie souvent, c'est un terme que j'aime bien, est arrivé au bon moment, voilà, pour qu'elle puisse reprendre et développer ce qu'elle avait envie. On avait quand même des points communs dans la vision de l'exploitation, dans les aménagements. Voilà, maintenant, ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à s'organiser pour fonctionner, parce qu'on a tous les deux notre vie qui est derrière nous et en même temps il faut arriver à remettre ça un peu comme quand on a 20 ans, mais sauf que là, on a une charrette derrière nous qui est un peu grosse, quoi.
Oui.
Après, ce que je peux donner, moi, comme information, c'est surtout mon vécu. Là où je me suis pris des gamelles, là où ça a marché, la clientèle que je suis arrivé à mettre en place et qu'on arrive à faire perdurer. Et sur les aromatiques, vous avez vu en étant, enfin, ça sera plus toi, Louise, qui a vu ça, en étant plus à côté de moi dans les aromatiques, je le fais aussi par passion, mais toujours avec une idée de chercher quelque chose de nouveau à transformer.
Ouais.
Donc en ce moment, on en arrive pour faire...
des petits tests avec des épices.
Voilà.
c'est ça, c'est, tu crées des nouveaux trucs et puis, je sais pas, là pour l'instant, t'as, en plante pérenne, tu as 4 espèces qui sont plantées.
Alors, en pérenne, donc, il y a le thym, la sarriette, la sauge et le romarin, plus de la verveine qui est une semi-pérenne. Hein. Et après, en annuel, on va planter du fenouil grec, donc de la nette, du fenouil. On fait aussi du calendula.
Oui.
C'est je travaille surtout autour de ces plantes-là. On a planté de la mamélis aussi, peut-être dans 4-5 ans, on commencera à récolter des feuilles, pour l'instant, il n'y a rien. Mais ça fait partie du projet aussi d'arborer l'exploitation, de ce couvert pour les légumes. Oui, c'est surtout pour les légumes.
Oui, parce que j'étais en train de penser à la surface en me disant, c'est déjà tout planté partout et comme tu as 8 hectares, tu pourrais planter d'autres trucs ailleurs. Mais en fait, là, vous êtes plus dans un projet de, densifier ce qui est déjà planté, de planter des arbres au milieu du maraîchage pour compléter, peut-être un peu des fruitiers, etc. Et avoir une production plus diverse.
Sur la partie maraîchère, puis ça, c'est surtout l'objectif d'Emmanuel, hein,
ouais.
Son objectif, c'est d'avoir beaucoup d'arbres autour d'elle. Donc, que ce soit des arbres aussi bien fruitiers que des arbres feuillus ou à fleurs pour la faune qui va vivre, qui vit autour de nous, hein, pour la protéger en même temps. Donc, ça, il y a encore de la place pour planter autrement.
Ouais.
Et la partie PAM. Aujourd'hui, on est quand même dans un volume qui est nécessaire. C'est sûr qu'il y avait 3-4 hectares encore, on pourrait avoir toujours tout plein d'idées.
Oui,
c'est la différence entre quelqu'un qui va démarrer, qui a 25 ans, quand tu démarres dans la vie, et puis quand tu démarres et que tu es en fin de vie. Quoi.
Mais c'est vrai que ça m'a étonné un petit peu, parce que j'ai vu à quel point, pour la partie aromatique, où c'est quand même mécanisé, un tracteur pour couper, t'as des machines pour séparer, pour battre, pour séparer les feuilles des branches, etc. Et je me suis dit, avec ce genre de machine, il pourrait faire une quantité d'hectares supplémentaires, beaucoup plus. Et en fait, non, ça reste quand même une production à échelle humaine.
Le matériel, si tu veux, j'ai toujours aimé aussi avoir ou concevoir des moutons à 5 pattes. Ça a toujours fait partie de ma façon de travailler. Enfin, j'ai des clients qui venaient et puis qui me disaient, ou leur personnel, quand ils arrivaient le lundi matin, ils m'appelaient MacGyver, quoi, parce que j'arrivais toujours à les dépanner ou j'arrivais sur une demande à produire l'outil qu'ils avaient besoin. Ça m'a toujours fait plaisir. C'est cette partie-là qui
me fait plaisir. En fait, il est là ton métier manuel.
T'as vu les outils qu'on a, ils ont presque un siècle. Mais c'est tout du matériel où on arrive à super bien travailler avec.
Ouais.
C'est vrai que j'ai du matériel qui peut faire 10 fois plus que ce qu'on a là. Mais c'est du matériel que j'ai récupéré petit à petit et que j'améliore comme je peux.
Oui, et qu'il faut ménager aussi.
Mais après,
aussi,
il est un peu comme moi, quoi. Il a des heures de route et on ne peut pas lui en demander trop, sinon il va faire la gueule.
C'est un métier que tu as façonné un peu, comme tu nous disais, tu as fait un peu comme tu sentais au fur et à mesure, tu t'es installé, tu as planté, etc. Comment aujourd'hui tu te sens là-dedans? Est-ce que tu as encore des contraintes, des trucs à améliorer? Où tu trouves que ça roule et tu te vois continuer comme ça dans la même trajectoire?
Alors, très souvent, c'est une réflexion que je fais. Hein. Tous les matins, quand je me lève, je me dis j'ai tout à apprendre.
Ouais.
Donc, je suis persuadé qu'il y a tout plein de choses encore à faire, à améliorer, à modifier. Voilà, c'est, si j'ai rien à améliorer, à modifier, je vais m'ennuyer et je vais changer.
Ouais.
C'est malgré qu'on fonctionne avec une certaine routine, mais je suis toujours en train de penser qu'est-ce que je peux améliorer, que ce soit pour biner, pour semer, pour trier, pour
mettre à sécher. On a inventé des nouvelles techniques dans le séchoir l'autre jour pour pousser les branches de romarin.
Mais oui, le truc, je sais pas me contenter de ce que j'ai là en disant oh ben là maintenant c'est à peu près au point. Non, mais on fait exactement pareil avec l'organisation pour les marchés du premier et troisième jeudi. Hein. Toujours, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment on peut le faire, toujours en gardant le fil conducteur. C'est-à-dire que sur les marchés, enfin sur les parties soirées, c'est que les gens qui ont des petits budgets ne soient pas reconnaissables au milieu de la foule. C'est aussi mon côté, je vais dire, de partage et de ma façon de voir la vie, quoi.
Ouais, en fait, c'est très accueillant. C'est,
ouais.
Quand on arrive ici, on n'a plus envie de repartir.
Mais on peut vous garder.
On va rester coincé à force. Du coup, on va peut-être aller vers la dernière question. Moi, j'ai un peu pensé à ça parce que, du coup, notre thème, ça reste les métiers manuels. Et la dernière question, c'est on parle des mains des personnes qu'on interviewe. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire de tes mains ? Et en fait, au début, je me disais, mais Hervé, il travaille quand même beaucoup avec des machines. La plupart du temps, quand tu travailles, tu es sur le tracteur, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu plus, complexe que ça. Et que souvent, là, quand tu répares, quand tu travailles à l'atelier, quand tu cuisines avec les herbes du papé, ça, c'est tout dans les mains. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes mains ?
Alors,
ton travail avec tes mains.
C'est deux outils super précieux, quoi. Aujourd'hui, il y a certaines fonctions qui baissent un peu de dessus. Mais les mains, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. On dit les travaux manuels. En fin de compte, il faut avoir un cerveau dans chaque main, quoi, aussi, ouais. En même temps, pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, quelque chose qui est... Je vais vous dire, mais pour travailler, il faut être fainéant.
Ouais.
Dans le sens, fainéant, pas de rester toute la journée sur le canapé, les pieds en l'air. Dans le sens où, avant de faire quelque chose, c'est de penser de quelle façon tu vas pouvoir le faire en t'économisant au mieux. Donc, et ça, c'est un collègue, un coup, on faisait des systèmes pour travailler en temps masqué quand on faisait les constructions. Et il m'a dit il faut être fainéant en travaillant. On avait travaillé 28 heures sans s'arrêter pour mettre au point un gabarit. J'ai dit, putain, si tu appelles ça de la fainéantise. en fin de compte, aujourd'hui, c'est quelque chose que ce terme-là, j'aime bien le transmettre chaque fois que je peux. Toujours penser ce côté fainéant, de dire... Est-ce que je peux m'économiser ? Est-ce que je peux me protéger d'une façon ou d'une autre, tout en avançant ? Et c'est pas toujours que ça marche, parce qu'il y a des moments où il faut pousser un peu comme un bourrin, comme on dit. Mais chaque fois qu'on peut, voilà. Et là, nos mains sont quand même les yeux qu'on a au bout des bras.
Merci. Mais super.
On va rester là-dessus.
Génial.
Merci beaucoup. Je vous souhaite, alors à vous, je vous souhaite une belle vie, une réussite sur tout ce que vous pouvez entreprendre et puis que vous aboutissiez à vos projets.
Ouais.
Merci beaucoup. Et toi, bon courage pour la suite.
En espérant vous revoir.
Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Tu peux t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochains. N'hésite pas à nous écrire un commentaire, ça nous fait super plaisir d'avoir de vos retours. Cet épisode a été financé par Françoise, alors merci infiniment d'avoir soutenu le podcast. Dans 2 semaines, on se retrouve avec Emma pour la partie maraîchage de l'exploitation agricole d'Hervé. À bientôt pour un nouvel épisode.